Donne-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
T'embrasse quand tu pleures comme c'est beau. Salut, Pissomel, Lévi, Radio Hair, Rigate, Stanit Mori, et j'espère que vous êtes en grande forme, rempli d'énergie. En arrivant ce beau matin d'automne, j'ai traversé avec mon vélo vers l'étue la passerelle des Arquebusiers, et en m'engouffrant dans ce majestueux flamboyant parc des Comtades, le platanus, les chênes, les érables ont revêtu leur parure pourpre rouge avec un léger bruissement de feuilles. Oh Vinette, quelle est de la poésie, Hitmourie ? Ben c'est comme ça, ici à Radio Judaïca, tout est poésie. Et je suis très heureux d'être avec vous, les grandes oreilles. Pour mon émission, j'ai fait une place à un charmeur, l'œil espiègle, lui aussi a revêtu sa parure d'automne. Chevelure hirsute, style, pardon, excusez-moi, coton-tige, hein, un peu blanc au-dessus. Petite barbe, poivre et sel, l'œil malicieux toujours. Son nom d'artiste, c'est Ryotomo. Alors Vickets, comment ça gazouille dans ton monde, Ryotomo ?
Ça gazouille très bien, André, et merci pour ton invitation.
Bah, c'est normal. C'est un nom qui vient de quelle origine ? Éthiopien, alsacien, que des rimes en rien ? Tiens, tiens.
Oui, en fait, Ryotomo, c'est japonais. C'est un ami asiatique qui me l'a donné. C'est assez romantique, en fait. Si tu veux, je te donnerai la traduction non officielle.
Bah, dis-moi la traduction, j'ai envie de savoir. Alors, on est curieux ici à la radio.
Alors, d'après lui, ça signifierait l'arbre qui fleurit sous le soleil au printemps.
Ah ben j'ai bien fait, on parle que de poésie ce matin. C'est vrai que tout est histoire d'arbres et de fleurs. Hein. Alors, qui se cache derrière ce nom d'artiste, Ryotomo ?
En fait, j'ai fait de la photographie pratiquement toute mon adolescence, une rupture très longue pour cause professionnelle, et j'ai repris environ 5-6 ans d'une façon intensive avec l'organisation de nouveaux événements et de nouvelles photographies.
Là, on en parlera un peu plus tard. Alors, un beau jour, tu étais un jeune garçon, tu avais encore les yeux chassieux, et pif paf, t'as une surprise par le facteur. C'était quoi cette histoire ?
Oui, en fait, dans ce journal Pif, qui était un journal pour les paf. Enfants, et pif, sans paf, mais en l'occurrence pif paf, pourquoi pas, et chaque livraison était accompagnée d'un petit cadeau. Et un jour...
Et en fait, c'était, tu pouvais faire de la photo avec du carton ?
Oui, il y avait la lentille, on pouvait introduire donc le film, la bobine dedans, il n'y avait aucun souci, et on arrivait à photographier, même très correctement, de grands artistes. On photographiait avec des petits appareils photo de ce style.
Et dis-moi, c'était quoi ta première photo qui te vient en mémoire avec cet appareil en plastique, là, en fait, carton ?
J'ai essayé de photographier la queue de mon chien, je parle de mon chien.
Hein. C'est pas possible ? Oui. Ça existe ?
Oui, en fait, ce mouvement me tracassait, je voulais fixer sur cette...
Le balai de la queue, tu veux dire ?
Oui.
Ah ouais, c'est drôle ça.
Oui, c'est drôle. Et en plus, nous avions une voiture, on avait droit à la queue du chien à travers le visage, et moi, j'essayais de capter ses mouvements.
Bah, ça devait être flou tout le temps, non ?
Oui, flou, abstrait même.
Ah, c'est ce qui te plaît en plus à la photo. Et alors, dis-moi, comment t'es venu photographe ? T'as fait des études de photographie ?
Enfin, grand, je ne fais qu'1m76, donc je ne suis pas
grand. C'est déjà de la grande taille, je fais 1m74, tu vois, t'es plus grand que moi.
Exact, j'ai 2 cm de différence avec toi. Non, en fait, c'est venu d'une façon tout à fait naturelle, voyage, rencontre, des gens comme Ploussu et d'autres encore.
Hein. Ah ouais.
Et puis voilà, et je me suis intéressé d'une façon de plus en plus intensive à la photographie, mais plutôt un peu intellectuelle, conceptuelle, moins les fleurs et les chiens, donc.
Ça veut dire quoi, une photographie intellectuelle, une photographie, soit tu es ému par une photo et tu l'aimes, ou c'est quoi une photo d'intello ?
La photo intellectuelle ?
Ouais, c'est quoi ? Moi, je ne comprends pas ça. C'est quoi ?
La photo intellectuelle est faite par des gens déjà à l'origine fatigués, qui essaient de cumuler la narration, une image qui raconte quelque chose. Tu sais, on parle actuellement de beaucoup le narratif, c'est un terme qui est redevenu à la mode. Et donc, à la fois narration et un peu d'abstraction. Voilà,
ouais, mais toutes les images racontent une histoire, Rio.
Oui, mais nous essayons avec cette photo dite intellectuelle ou conceptuelle de se décaler, de ne pas montrer simplement l'objectivité d'une image, mais également un peu ce qu'elle peut cacher.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais toi, par exemple, avec tes yeux, quand tu vois, par exemple, quelque chose, qu'est-ce qui t'émeut ? Qu'est-ce qui te fait arrêter, appuyer sur clic-clac Kodak, par exemple, pour la publicité ? Qu'est-ce qui fait ça pour toi ? Comment ça se passe pour toi ?
En fait, dans la photographie, il y a au moins trois approches. Il y a le côté spontané, une situation dont tu es le témoin et tu ne veux pas rater l'événement. Il y a également le côté un petit peu caché. Une image, un enfant, et puis tu as le côté complètement abstrait que personne ne comprend et que toi, tu vas pouvoir photographier.
Est-ce que quand on est photographe, est-ce qu'on a, j'imagine toujours une grosse valise avec plein d'objectifs autour du nombril et on y va, on claque dans tous les trucs, des Leica, des Nikon, est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui ? On a toujours du matos de ouf ou pas ?
En fait, il y a plusieurs types de photographes. Il y a, comme tu le décris, des gens qui sont super armés, équipés, dont souvent la photo n'est pas toujours à mon goût. Voilà. Et ensuite, il y a des gens plus discrets, un peu comme moi, avec des tout petits appareils cachés dans la poche ou dans un sac Monoprix et qui photographient de façon plus ou moins discrète.
Ça veut dire que tu travailles plus avec des petits boîtiers qui ne sont pas des boîtiers professionnels, c'est ça?
Ah oui, carrément. Plus je vieillis, entre guillemets, dans la photo, moins je veux m'équiper de choses lourdes. Je reviens un petit peu à mes amours de 13, 14, 15 ans, des petits appareils. Bon, ils ne sont plus en carton, bien entendu. Mais néanmoins, c'est ce format qui me plaît de plus en plus.
C'est trop drôle ce que tu me dis, parce que quand j'ai travaillé à Paris, j'habitais boulevard Murat et j'habitais dans une arrière-cour. Et là, il y avait une grande photographe qui s'appelait Sabine Weiss, qui est malheureusement dans les étoiles depuis quelques semaines. Et j'étais très ami avec elle. Je la voyais souvent avec son mari. On déjeunait. Et elle me parlait de photos. Elle avait des photos, des appareils photos jetables. Elle me dit, André, je fais des photos avec ça. Et même si ces photos étaient pleines de gros grains et tout, mais c'était une photographie et c'est ce qu'elle faisait, quoi.
Et c'est tout à fait mon approche. Ce sont des sources, en fait, pour moi, des sources d'imagination. Et je préfère photographier d'une façon plus ou moins floue, plus ou moins précise. Et je rejette de plus en plus la photo nette, carrée, voilà. Quoi. Ouais. C'est le côté un peu poétique de la chose.
Ouais, c'est ça. Un peu les photos trop institutionnelles, c'est pas tellement ton truc.
Non. Ouais. Mon truc, c'est effectivement ce mélange un peu abscond de concret, d'abstrait et de mystère.
Est-ce que la photo t'a fait voyager également ?
Pas tellement, finalement. J'ai beaucoup voyagé dans mon métier. J'étais dans le transport aérien. J'ai pu faire des photos lors de certaines escales, mais ce n'était pas mon activité. Hein.
Tu veux dire que tu étais pilote d'avion ?
Non, j'étais commercial. Je m'occupais de troupes pour remplir les avions dans une grosse compagnie.
Comme un poinçonneur de lilas, en fait.
Oui, quelque part. Absolument, oui. Ouais.
Et alors, tu n'as pas eu des mésaventures dans tes avions ?
Si, bien sûr.
Ah bon, quoi, oui, par exemple ?
Je me suis crashé deux ou trois fois, déjà.
Mais attends, t'es encore là, aujourd'hui ?
Oui, ce sont des expériences que j'aimerais bien renouveler.
C'est pas vrai.
Mais oui, je me suis crashé. Enfin, quand j'ai dit nous sommes crashés dans le désert au sud de... Non, au nord d'Assouane, entre Le Caire et Assouane.
Wow.
On a été pris par une... On était dans un Fokker bimoteur. On était 9 ou 10 dans l'avion. Et malheureusement, le pilote a voulu descendre, montrer une très grosse dune. Et derrière, il y a un énorme nuage de sable qui s'est levé.
Un sirocco.
Un truc absolument phénoménal, un peu comme dans les films d'horreur. Et on a été pris là-dedans, les moteurs se sont enroués.
Wow.
Et on a dû atterrir sur un peu plus bas, sur le sable.
Sur le sable,
Et à 180 km à l'heure, le sable, c'est du béton.
Mais l'avion s'est cassé, fracassé?
Non. On s'est tanké, comme on dit à Marseille. On a fait des bonds, des rebonds. Ouais. Tout le monde a été plus ou moins secoué, accidenté, des bosses sur la tête. Mais on était tous vivants.
C'est Indiana Jones, ton truc?
Ah oui, carrément. Ouais. Et puis les deux pilotes égyptiens ont été formidables.
Ah ouais.
D'un côté imprudent et de l'autre côté avec des réactions formidables.
Ouais,
donc bravo les pilotes. Là.
C'est bien. Et tu es là aujourd'hui, mais tu as vécu un truc extraordinaire.
Oui,
quoi.
Oui.
Alors revenons un petit peu à nos moutons. Là. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, comme toi, j'ai pas eu par pif paf un appareil photo, mais mon père m'avait offert un appareil quand j'avais 13-14 ans. Et j'avais rêvé aussi un jour comme un petit peu à rêver. rêvé le film de Clint Eastwood, tu sais, là, la route de Madison, tu l'as connu ce film?
Oui, oui, alors, ce film, tellement en tête, je vois très bien.
Je connais totalement quasiment tout le film par cœur, tellement bravo. C'était beau, cette belle histoire. Et lui, en fait, c'est vrai qu'il avait aussi beaucoup de matériel et il a parcouru le monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait également rêver, quoi.
Oui, mais bon, si tu fais la photo avec moi, tu seras déçu. Hein.
Pourquoi?
Parce que tu auras un tout petit appareil dans la poche, point barre.
Ah oui, mais c'est ce que j'ai aussi. Moi, maintenant, tu sais, j'ai mon téléphone
qui a
des millions de pixels. Et avec ça, je veux dire...
C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. J'ai eu des photos de nuit extraordinaires, quoi.
Oui.
Alors aujourd'hui, dis-moi voir un petit peu la photographie. Comment devient-on photographe encore de nos jours, maintenant?
En fait, soit tu as une formation de base, comme on dit, tu vas à l'école, dans une école de photographie et tu deviens photographe, soit tu deviens photographe par goût, sans être formé au départ, ou alors beaucoup plus par affinité. Moi, c'est mon troisième cas, je suis photographe par affinité.
Bah, il faut quand même, quand tu es photographe, quand tu fais par exemple de l'industriel ou autre, il faut quand même avoir du matériel, des flashs et des écrans et tout, pour faire des photos professionnelles. Quoi,
ouais,
tu vois.
Non, pour ma part, j'ai fini ce genre d'approche. Je reste beaucoup plus dans, encore une fois, dans une certaine abstraction, un certain flou. Je me détache de la photo trop descriptive.
Tu crois qu'on peut encore gagner de l'argent avec de la photo? C'est encore un métier d'avenir pour les jeunes?
Oui et non. Si tu vas un peu dans la photographie de mode, et si tu as un peu de contact, des relations dans le monde de la mode, tu peux éventuellement percer, comme on dit. Sinon, c'est très difficile.
Ouais, pour gagner des sous avec la photo, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Ouais. Mais bon, il faut pas décourager les jeunes.
Non, mais bien entendu. Hein, non, mais bien sûr que la photo, tout le monde en fait. Tout le monde fait de la photo avec les iPhones maintenant. Tout le monde a l'habitude de faire des cadrages.
Oui, alors là, c'est un long débat. En fait, c'est de moins en moins de la photo et beaucoup plus de la réaction, quoi. Un clic-clac, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Mais la photo, c'est bien autre chose qu'un clic-clac.
Et alors, tu m'as pas trop parlé de ton style photographique. Qu'est-ce que tu photographiais il y a quelques années quand tu étais jeune photographe? Tu me l'as expliqué. Mais aujourd'hui, tu fais des photos dans les studios? À l'extérieur?
Pas trop dans les studios. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement certains points de vue sur la nature, le corps. J'aime beaucoup photographier le corps. Non, pas le corps en entier.
Bah, tu es quand même assez limité, non? Tu as les doigts, les épaules, les yeux, les oreilles.
Ouais, mais on découvre à chaque fois de nouvelles perspectives, c'est le cas de dire.
Il y a hommes et femmes, qu'est-ce qu'il y a,
oui,
qu'il y a quoi?
Oui, mais une épaule n'est pas une épaule. Enfin, pour moi, un muscle n'est pas toujours un muscle. C'est assez compliqué à expliquer. Il faut voir le travail et je fais une forme de photo transgressive.
D'accord. Attends, avant de parler de la photographie féminine et de voir quelles sont les femmes, qu'est-ce qu'elles font comme photo. On va peut-être avec notre jeune ingénieur écouter un peu de musique, mais nous voir un petit peu Madame Case, tu vas voir un peu la musique de cette dame, ça va éveiller les sens, même les sens interdits.
J'adore.
Tu entends cette voix?
Oui, c'est splendide.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cette femme chanter?
J'ai envie de danser avec elle.
Wow.
Un slow.
Ah, c'est génial. Ouais. Alors, parlons un petit peu de des femmes, les femmes et la photographie. Elles ont quelque chose de plus que les hommes. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, dis-moi?
En fait, ces dernières années, l'essor photographique côté féminin est très important. Quand je dis ces dernières années, ça remonte même à très 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 longtemps. Hein. Nous avons des cas spécifiques de grands succès photographiques. Et même ici, sur la région de Strasbourg, nous avons de grandes photographes. Hein, François Sor, Nathalie Savet, par exemple. Et ça, ce sont des photographes de très haut niveau.
D'accord. De l'autre côté du Rhin, t'en connais aussi quelques-unes qui
Oui,
font...
j'en connais. Je viens de découvrir une jeune photographe allemande qui s'appelle Andrea Christel, qui fait un travail merveilleux et qui d'ailleurs a été sélectionnée pour notre prochain événement.
Bah alors, on va en parler de ton événement. C'est quoi ton événement ? C'est pour ça que t'es là aussi derrière
oui,
ces micros.
Oui.
C'est quoi ? Raconte-nous ton événement.
En fait, il y a 5 ans maintenant, on a voulu avec un groupe d'amis monter un événement, un circuit photographique en ville, et on voulait sortir la photographie des musées ou de certaines galeries parisiennes pour montrer le plus grand nombre de photos au plus grand public possible.
On peut appeler ça une photographie de rue ?
Non, pas vraiment, parce que la photographie de rue signifie que ce sont des photographes qui photographient des situations dans les rues. Nous, on expose de la photographie dans des endroits un peu partout, dans les magasins, dans
des endroits clos, tu veux dire, fermés ?
Oui, carrément. D'autant plus que la prochaine édition, c'est en novembre. Donc, au niveau météo, il faudra faire attention. Ouais. Donc, toutes nos photographies sont montrées dans des endroits clos. Et nous sommes effectivement dans l'esprit d'un circuit.
D'un circuit, ça veut dire qu'on peut autant voir tes photos exposées dans une boucherie, dans une boulangerie, alors, chez un docteur ou
Exactement, absolument. On a l'exemple d'un magasin d'électricité qui était tenu il y a 2-3 ans par... un vieux monsieur turc et son fils qui nous ont ouvert leur magasin. On a débarrassé des câbles, les lampes. Ils ont repeint tout un entrepôt. On a pu exposer quelqu'un dedans. Voilà un exemple d'endroit atypique. C'est ce que nous voulons. C'est un peu l'esprit de l'événement.
Ouais, ça c'est très original quand même. Et donc, comme tu dis, les photos ne seront jamais dans un musée, ce seront toujours dehors ou dans
oui.
une galerie, elles seront
oui.
à l'extérieur.
Alors, depuis 2-3 ans, enfin, malgré le Covid, on a pu effectivement rallier quelques galeries de photographies, pardon. Mais en gros, nous restons effectivement essentiellement orientés vers des lieux, des endroits atypiques.
Ça a commencé il y a combien de temps ça ?
Ça a commencé donc en 2017. Donc on a fait 2017, 2018, 2019 en mars 2020, on a été arrêté par le Covid pendant 2 ans.
Donc 2 ans, et là tu reprends au mois de novembre.
Et là, c'est la reprise au mois de novembre. On est au mois de novembre et non pas au mois de mars, c'était d'habitude le mois de mars, mais on fait novembre parce qu'on travaille cette année, avec également le Salon d'art contemporain START.
Et combien ? Ah, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que les artistes peuvent aussi exposer à START ? Tu les présentes à START ?
Enfin, c'est un peu plus réduit, on va dire. Hein, il faut rester modeste. Il y aura un événement dans START autour de la photographie et nous allons extraire des photos que nous sélectionnons pour Strasbourg Art Photographie en novembre, quelques artistes pour les montrer effectivement sur START.
D'accord. Et donc les gens, quand ils viendront dans ces lieux un peu originaux, ils peuvent discuter avec les artistes, les rencontrer
Oui, alors dans Strasbourg Photographie, nous faisons des talks, des rencontres photographiques, des projections et un certain nombre d'artistes, de photographes sont là vers le public pour commenter leurs travaux. C'est un des événements que nous mettons aussi en place.
Alors, on parle de tout ça, mais combien de gens, combien de photographes exposent en fait
Alors cette année, nous en aurons une cinquantaine.
Waouh, 50 ?
Oui, mais nous avons été jusqu'à 70-80 quand même.
Mais où tu les trouves ?
Mais c'est eux qui viennent spontanément. Nous avons des Canadiens, des Américains, des Indiens, des Italiens,
wow.
des Espagnols, beaucoup d'Allemands cette année, Allemandes, on aura pas mal de photographes allemandes,
ah ouais.
et donc ce sont des gens qui viennent spontanément.
Et ils seront tous là physiquement pour...
Alors certains peut-être pas, mais à 80-90%, oui, ils seront là.
Et alors les photos, c'est du noir et blanc, c'est du couleur, c'est plutôt noir et blanc les photos actuellement?
Alors nous essayons d'avoir un panel le plus large possible, à la fois de la photo dite narrative... Hein, et à la fois de la photo un peu plus abstraite ou en tout cas plus de recherche. Mais encore une fois, nous ouvrons vers un public le plus large possible et nous essayons de faire une sélection aussi assez fine quand même.
Ouais. Alors ces photographes, ils seront sur Strasbourg à un moment, ils seront tous là pour discuter avec les gens
Oui, absolument. Nous avons le vernissage inaugural qui sera le 4 novembre, qui est un vendredi. Le lieu sera donc communiqué ultérieurement, mais il est déjà choisi en fait. Hein. Et là, on est plusieurs centaines de personnes à manger des petits fours et à regarder de la photographie.
Et tu as du sponsoring derrière ?
Oui, nous avons de grandes institutions qui nous aident, à la fois privées et... communal. Bon, c'est difficile hein, sur le plan budgétaire, c'est serré, mais globalement, on s'en sort.
Et comment t'es venue cette idée de penser d'abord aux autres avant de penser à ta photographie, à toi ? Pourquoi tu partages comme ça avec les uns et les autres ?
En fait, un photographe qui regarde toujours son nombril s'ennuie. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Hein. Donc, je préfère m'intéresser aussi au nombril des autres, quand même.
Ouais, c'est mignon ce que tu dis, le nombril. C'est vrai, un nombril, c'est l'encrier. C'est un encrier, c'est très très beau, ça.
Oui, oui. En fait, si tu veux sortir de la photographie, il faut s'ouvrir aux autres photographes, sinon tu deviens fou, quoi. Ouais. Tu ne parles que de toi.
Ouais, c'est vrai. Et dis-moi, le public suit ? Il y a du monde qui vient voir ces photos ?
Oui, alors, les trois premières années, on a eu une moyenne de 24 000 visiteurs.
Non,
oui,
24 000
Oui, oui, mais pas en une journée, sur un mois.
Non, mais j'imagine, quel succès, quand même. Ouais, c'est incroyable.
Incroyable, incroyable. Ouais. On a eu beaucoup de succès, les relais presse, comme ici aujourd'hui. Donc on est content, voilà. Quoi.
Et les gens des institutions te suivent un peu. La belle maison de la mairie sont un peu derrière toi.
C'était très difficile. Nous avons eu, avant le changement de la mairie, des aides concrètes. Et cette année, avec la nouvelle mairie, nous avons également une aide concrète, soit ce qu'on appelle des subventions, hein, ou alors peut-être également de l'affichage, tout ça. Donc globalement, ça va.
Des locaux, tu exposes aussi à la mairie, alors ?
Non,
à la préfecture.
Non, malheureusement, cette année, on n'a pas de place réservée pour nous. Par contre, les années précédentes, on était chaque année présent à la région, ici, au Vakken.
Ah oui, oui. Bah, sinon, l'Elysée, il y a de la place aussi. C'est joli là-bas,
oui,
tu pourrais exposer.
C'est pas mal.
Sénat, c'est beau, c'est Versailles.
Je pourrais refaire le portrait du président actuel.
Oui, c'est une bonne idée. Bah, tu sais qu'il a un photographe alsacien, je crois qu'il le suit permanence. Ouais, je connais un photographe qui est avec lui.
Je ne veux pas me mettre à dos avec
ça. Non, mais bien sûr que non, il vaut mieux avoir beaucoup de respect pour ces gens-là, ouais. Et alors, je voulais te poser aussi une question par rapport à ta philosophie de vie. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour l'autre ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Eh bien, d'abord, je suis venu te voir, sur ton invitation. C'est très sympathique. J'ai trié mes poubelles. Je suis un écolo historique, en quelque sorte.
Ah, j'aime bien quand tu parles de moi, que tu parles des poubelles. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas une poubelle jaune, hein, ni bleue. Hein.
Non. J'ai dit que j'ai trié mes ordures.
Ça, c'est pour la planète.
Voilà.
Ça, c'est pour la...
Mais je ne t'ai pas mis dedans. Toi, tu es quelqu'un de précieux, donc on te garde.
Bah, t'es gentil de me dire ça. Ouais.
Voilà.
Et la planète, tu t'en occupes aussi, hein, dont tu en parlais un instant pour la planète. Qu'est-ce que tu penses avec tout cet été où on a eu tous ces problèmes ?
En fait, venant du milieu commercial et aérien, j'ai pas mal culpabilisé ces dernières décennies, hein, beaucoup de pollution, hein, et il a fallu effectivement que je refasse une analyse environnementale, hein, et donc je me suis vraiment intéressé à l'écologie.
À l'écologie. Bah après ce mot écologie, on va peut-être reposer un tout petit peu les oreilles et on va demander à notre ingénieur du son de nous mettre une petite musiquette, celle que tu as envie de choisir. Vas-y, mets-nous ce que tu as envie, qu'on se repose un peu les oreilles.
To her place near the river, you can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water.
C'est beau, Cohen, hein?
Oui, j'aime beaucoup. C'est une voix magnifique, des textes extrêmement précis. Oui, il y a un peu de photographie sonore là-dessous.
C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le voir à Colmar. Il avait des choristes, des centrales nucléaires, comme on dit, des magnifiques femmes qui chantaient et tout. Et lui, il était là, charmeur, avec sa voix un petit peu rauque comme ça, tu vois.
Oui, c'est un mélange, effectivement. Il y a un aspect crooner, mais également un aspect très moderne. Et j'aime beaucoup ce style, quoi.
C'est l'élégance.
Oui, c'est un grand bonhomme. Hein.
Tu avais peut-être, je sais pas, tu voulais me poser une question, je sais pas laquelle.
Mais si, toi, est-ce que tu as fait de la photographie dans tes nombreux déplacements? Tu as été partout à travers le monde, je le sais.
En fait, moi, je viens d'un monde. Je suis un regardeur, en fait. Je m'appelle un regardeur parce que j'ai appris à regarder avec mon père. Mon père, il dessinait des toiles pour les cinémas, ainsi de suite. Je l'avais déjà dit un jour. Et en fait, j'ai commencé aussi à faire de la photo parce qu'il m'avait offert un appareil en carton, mais un appareil, un faux Glender, je sais même plus trop quoi. Alors, je devais économiser l'argent du dimanche pour m'acheter du 24-36, une pellicule. Et effectivement, j'ai commencé à photographier, par exemple, pour Thalès, à l'époque, qui était un endroit complètement abandonné, où il y avait derrière une faculté, comme ça, en bois. Enfin, il y avait des étudiants, donc j'étais rentré là-dedans. Et on avait quasiment cassé une vitre pour vivre là-dedans, à l'intérieur, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait que des meubles et un piano à queue, comme encore aujourd'hui.
Tu aurais pu faire de l'urbex.
Et donc j'ai commencé à faire des photos, comme ça, ou dans les décors du TNS, qui était avenue Ehrenschmidt à l'époque. Ils avaient ça remonte il y a 40 ans. Hein. Quand j'avais 15 ans, je faisais ça. Et grâce à cette photographie, je pense que j'ai pu voyager, j'ai pu devenir journaliste, caméraman. Je pense que cette manière de savoir regarder les choses m'ont emmené là sur mon parcours. Et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai que c'est très enrichissant. Et ça, c'est au fond de mon cœur, tout ce que j'ai vu.
Bien ce que tu dis. porte une caméra ou juste un petit appareil photo.
Ouais.
C'est une histoire d'œil, de regard et de cœur.
Et de cœur, ah, c'est beau. Ouais. On est des vrais poètes, hein,
tous les deux aujourd'hui. Oui, quelque part. C'est très mauvais pour notre relationnel, mais bon.
Voilà. Oui, c'est poète-poète.
Les femmes aiment, paraît-il.
C'est vrai. Alors, tu voulais me parler aussi de ce que tu fais actuellement comme photo. Tu photographies des poubelles, je sais plus quoi.
Oui, en fait, j'ai une tendance à photographier les ordures, les poubelles, les déchets, sous un angle un peu artistico-prétentieux. Mais cette prétention a un but, c'est de rendre sensibles les gens, justement, à cet environnement. Et quand tu vois un tas de poubelles dehors, dans la rue, tu peux trouver quelque part une beauté, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai souvent assimilé ça à un contexte, à un concept. Est-ce que l'art, ou plutôt la pollution, n'est-elle pas un art dégénéré?
Et tu penses que ça fait avancer des choses? Tu penses que les gens sont sensibles à tes photos et se dire, bah oui, il faut trier les poubelles jaunes et les poubelles bleues, il faut plus rien jeter dans la rue. Est-ce que tu penses que ça va changer le monde, ça?
Oui, ça peut, à mon niveau, mais j'ai tout à fait modeste. J'ai eu l'occasion d'exposer ces photos sur les ordures et les poubelles au dernier Start, en novembre dernier, et on a été surpris par l'intérêt du public. C'était assez phénoménal.
Ah ouais, et Start, c'est un événement important cette année à nouveau?
Ben, j'espère, on fera tout pour que Start devienne également une place importante pour l'art contemporain.
Pour la photographie surtout, ça
serait bien. La photographie, c'est balbutiant, on va tâcher d'augmenter cette partie, oui.
D'accord. Alors, comment tu as trouvé cette petite émission qu'on a fait ensemble?
Écoute, très sympathique. Le café était très bien.
Ils sont gentils, là. Hein.
Le jeune ingénieur est très sympa.
Valérie et Sybille sont adorables.
Absolument.
Ouais.
On a été très bien accueillis. Et tu as toujours un look d'enfer.
Ah, mais t'es gentil de me dire ça. En tout cas, voilà, l'émission se termine. J'étais très content de passer ce moment avec
moi
toi.
Aussi.
On va demander à notre ingénieur de son de mettre un peu de Zigmu pour terminer l'émission. Et merci de ton écoute, jeune homme, derrière le... C'est commun. Thomas, ouais, effectivement.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.